scuola, Livro dell'Ecclesiasta. On a parlé des origines et de la destinée. Pierre avait ça à cœur pour nous encourager, nous exhorter. Il nous parlait toujours de notre conversion, de Jésus-Christ. Et il nous parlait toujours de notre destinée, là où on allait, le ciel. Et donc, situé comme nous sommes situés entre les deux, ah ben voilà, on a la marche chrétienne qui est pour vous. On a vu également la dernière fois que Pierre faisait appel à ce qui s'était passé pendant le déluge, et donc par rapport à ce qui s'est passé pendant le déluge, c'est un point de repère pour nous, faire comprendre le présent et l'avenir. Et donc le déluge était quelque chose de tout à fait réel pour lui, et ça a été réel pendant des siècles, jusqu'à ce que ce soit remis en question, vous le savez, par la théorie de l'évolution. Et on va repasser une couche là-dessus ce matin, avec l'aide de l'Ecclésiaste. Je voudrais que ça contribue à nous faire doucement sortir de ce paradigme qui est l'évolution dans lequel on a baigné, on a grandi, et qui enseigne dans les écoles et à tous les enfants, et c'est vraiment un formatage de fond de notre société, que la vie vient du néant, et avec l'effet du temps, des mutations, de la sélection naturelle, l'homme est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et pourquoi cela s'arrêterait là? Alors, un paradigme, la Rousse le définit ainsi, c'est un modèle théorique de pensée qui oriente la recherche et la réflexion scientifique. Et donc un bon exemple de paradigme qu'on m'a donné dans le travail, c'est passé en 1967. C'était du temps où l'horlogerie suisse était au sommet de sa gloire. Ils avaient à eux tout seuls la moitié du marché mondial des montres était fabriquées en Suisse. C'était un business énorme et très juteux et lucratif. Et en 1967, ils ont présenté au public un prototype de la première montre à quartz. C'était quelque chose qui avait été exposé. Voilà, c'était les premiers à avoir fait une montre à quartz. Mais ils n'ont pas cru du tout à ce que cela ait un intérêt, une montre à quartz. Pour eux, le paradigme, c'était que forcément, une montre, ça a des aiguilles. On ne peut pas imaginer une montre sans mécanique à l'intérieur et sans aiguille. Ce n'était pas une montre. Et 2 ans plus tard, les Japonais ont sorti de façon industrielle les premières montres à quartz. Et ils leur ont soufflé leur innovation en quelque part. Et l'industrie, dans les années qui ont suivi, l'industrie suisse a complètement plongé. Et tout le monde voulait des montres à quartz fabriquées en Orient. Ça incompréhensible de nos jours qu'il n'ait pas vu l'intérêt d'une montre qui soit plus précise que les montres à aiguilles qu'il savait faire. Mais c'est ça, les paradigmes. Si on revient à notre... Je vais faire la lecture de ce texte maintenant, de l'Ecclésiaste. On va lire l'Ecclésiaste chapitre 1, verset... tout le chapitre. Je vais lire dans la seconde, petite seconde à la colombe. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem. Comble de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste. C'est la seconde 21, pardon. Comble de l'inconsistance, tout n'est que fumée. Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre arrive, et la terre est toujours là. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après l'endroit d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le sud et tourne vers le nord. Puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, Mais la mer n'est pas remplie. Et ils continuent d'aller vers leur destination. Tout est en mouvement, plus qu'on peut le dire. Et l'œil ne sera jamais rassasié de voir, et l'oreille ne sera jamais remplie au point de ne plus pouvoir écouter. Verset 9. Ce qui a existé, c'est ce qui existera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit à propos de quelque chose, regarde, ceci c'est nouveau. En réalité, cela existait déjà dans les siècles précédents. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera par la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher, à explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le soleil. C'est une occupation pénible que Dieu réserve aux humains. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Ce qui manque ne peut pas être compté. Je me suis dit, j'ai augmenté et développé la sagesse plus que tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de connaissances. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, mais aussi la folie, la stupidité. Et j'ai découvert que cela aussi, cela revient à poursuivre le vent. En effet, avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa connaissance, augmente sa souffrance. Voilà un texte qui peut sembler bien pessimiste. Le verset 1, je pense que c'est la clé de la compréhension. Le verset 1 donc qui dit ceci, je vais prendre la seconde classique. Parole de l'Ecclésiaste donc, fils de David, roi de Jérusalem. Fils de David, roi de Jérusalem. On a eu du mal à deviner qui pouvait être l'Ecclésiaste. Et il est dit ici, fils de David, roi de Jérusalem. Et donc la mention de David doit nous éveiller. Parce que s'il est question de fils de David, c'est qu'on est situé après David. Et donc l'auteur considère qu'on sait ce qui concerne la loi, le Pentateuque, on sait ce qui concerne les écrits, les premiers livres des premiers prophètes qui étaient là, le début de l'histoire d'Israël. Et les premiers lecteurs donc savaient également qui était David. Et les psaumes qu'il avait rédigés. Alors l'Ecclésiaste, qui c'est un, bon, ça vient de la Septante, en fait, la traduction grecque, qui était utilisée d'ailleurs du temps du Seigneur. Et donc, ça signifie celui qui dirige l'assemblée. C'est tantôt traduit par maître, sage, prédicateur. Alors on pense bien sûr au roi Salomon, hein, pour lui. Fils de David, roi à Jérusalem. Dans la mention de David sous-entend que des connaissances théologiques sont acquises. David était un homme qui aimait l'Éternel, son Dieu, et il avait connu une vie mouvementée, bien des détresses. Et les psaumes qu'il a écrits sont une aide précieuse pour le peuple de Dieu. Il encourage à se confier en Dieu. Et lorsqu'on est dans les difficultés, et à le louer dans toutes les circonstances. Et donc, tout ça est en arrière-plan et ne doit pas être perdu de vue pour comprendre ce que Salomon veut nous dire. Salomon, en effet, a vécu un temps de paix Tout allait bien du temps de Salomon. Il y avait des richesses à profusion. Il y avait tout ce que le peuple était au sommet de sa prospérité, de son rayonnement. Et ce livre va être précieux donc pour nous aider à nous conduire quand tout va bien dans notre existence. Salomon, il fait les observations sous le soleil. Il se place sous le soleil, un observateur du monde qui l'entoure. Il voit, il fait des observations, il fait des expériences et il en tire des enseignements. Et là, on peut dire qu'il avait une approche en quelque sorte scientifique. Voilà ce que j'observe, voilà les faits et voilà ce que je peux en conclure de toutes mes observations et de toutes les expériences que j'ai faites dans ma vie. Il ne passe pas de temps à rappeler l'enseignement de l'origine, de la loi. Est-ce qu'il le fait volontairement ou pas? On ne le sait pas. On sait que Salomon a dérapé gravement à la fin de sa vie. Le verset 2, voilà. Il est connu de beaucoup de personnes. C'est vraiment le verset qui vient à la mémoire quand on parle de l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel est ce mot vanité là qu'on a là? C'est le sens de la vapeur ou de la fumée, comme j'ai lu dans la traduction tout à l'heure. Et en tout cas, c'est ce que David, quand il parle des idoles dans les psaumes, il dit que les idoles sont vanité. Elles sont vides. Elles n'ont pas de consistance, elles n'ont pas de poids. C'est là le sens qu'on peut retenir pour ce mot. Et ainsi donc, sous le soleil, quand on observe les choses avec des yeux, tout est vide de sens et tout semble tellement léger. C'est ce qu'il s'attache à expliquer dans son livre, mais pas seulement cela, et heureusement. Vanité des vanités, tout est vanité, comble de l'inconsistance, comble de l'inconsistance, tout n'est que fumée. Futilité complète, tout n'est que futilité, ça c'est la Bible, la Nouvelle Bible Second. Tout part en fumée, rien ne sert à rien, rien ne mène à rien. Parole de vie. Dérisoire, absolument dérisoire, tout est dérisoire. Ça, c'est la Bible Semeur. Alors, on n'est pas quelque chose qui est très encourageant. Hein? Moïse, quand on l'avait lu avec Patrick, le psaume 90, il exprime un petit peu pourtant la même idée. Par exemple, au verset 10, la durée de notre vie s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe. Et nous nous envolons. Cette idée est aussi présente dans le Nouveau Testament sous la plume de Paul, mais de façon plus carrée. Hein. Il utilise ce mot pour décrire la condition de la création depuis la chute dans le Jardin d'Éden, suite à la rébellion de l'homme. La création a été soumise à la vanité, c'est le même mot, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Et il continue donc en disant qu'elle soupire après le renouvellement de toutes choses, après la révélation des enfants de Dieu, le retour du Seigneur, pour qu'elle soit associée au renouvellement, elle aussi. Alors voyons nos versets suivants. Alors là, il y a les images. Voilà le premier, le verset suivant. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va. Une régénération. Un autre vient et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève,
le soleil se couche, et il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau.
Le vent se dirige vers le midi,
il tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits.
Tous les fleuves vont à la mer.
Et la mer n'est pas remplie.
Il continue à aller vers le lieu où il se dirige.
Toutes choses sont en travail,
au-delà de ce qu'on peut dire. On va déjà commencer à réfléchir ici. Donc, malgré tout ce qui se passe, rien ne change vraiment. Pas de vrai changement. Dans le jardin d'Éden, on a fait croire à l'homme que s'il connaissait le bien et le mal, il y aurait des changements. Il serait semblable à Dieu et il pourrait évoluer sans Dieu, loin de sa présence. Et depuis ce temps, l'homme pécheur fonde de grands espoirs dans ses capacités. Mais ce qu'a observé l'Ecclésiaste, c'est que c'est plutôt donc pessimiste, comme on a lu de ce côté-là. Comme on dit, quoi qu'on fasse, on n'empêchera pas la terre de tourner. C'est une expression qu'on emploie. La terre ne va continuer de tourner, ne t'en fais pas. Nous avons une place dans un arbre généalogique, mais au final, nos parents, leur espoir, leurs difficultés, ils ont eu les leurs. Notre génération a ses espoirs, ses difficultés, et nos enfants auront les leurs à porter, leurs espoirs et leurs difficultés. Et ça s'arrête jamais. Chaque soir, il y a les prévisions météo pour le lendemain. Alors, on s'inquiète de la température. Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce que le vent va souffler? Et nous en avons sur nos portables ces trois indicateurs-là importants. La chaleur, la pluie, le vent. Et tout ça change tous les jours, mais sans changer vraiment. Chaque soir, il y a le journal télévisé qui informe de l'actualité. Ou bien on suit certaines, sur les réseaux sociaux, on peut suivre certains fils d'information. Et voilà, on ne se lasse jamais d'entendre les nouvelles qui changent, mais qui ne changent pas vraiment. Et on voit des images et on ne se lasse jamais de voir les images du journal télévisé où on les fait scroller sur notre portable. Et toujours il y en a, toujours il y en a, toujours il y en a, toujours il y en a. Toujours on peut regarder. Et on écoute et c'est jamais plein. Avez-vous pris déjà l'avion? Je suppose que oui pour la plupart d'entre nous. Et puis quand l'avion s'élève, moi, je suis toujours fasciné par toutes les voitures qui sont en mouvement partout. Surtout à Toulouse, là, ils tournent longtemps avant d'atterrir, là. Ils survolent beaucoup la ville. Et puis, voilà, toutes ces maisons avec leurs petits coins de piscine. Et puis, des voitures qui circulent dans tous les sens. Quelle activité! On a l'impression que ça ne s'arrête jamais. Si on n'a jamais vu ça, ben, on peut observer une fourmilière. On peut observer les petits insectes, toujours en travail, toujours en mouvement, tous les jours. Et on se dit, mais ils s'arrêteront jamais? Ben non, tous les jours, ça bouge, ça grouille de tout part, de partout. Là où il y a de la vie, il y a du mouvement partout, tout le temps, chaque minute. Et rien ne change vraiment. Versets 9 à 11. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà les plantes qui poussent. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est quelque chose qu'on dise, voici, ceci c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien.
Ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. Il n'y a pas de nouveauté. Et c'est vrai que c'est frappant quand on voit la grande actualité de ces derniers mois et années, c'est la guerre en Ukraine. Et à l'heure de la haute technologie, de tout ce qu'on pensait que était maintenant la guerre, pour les soldats là-bas qui sont au front, il y a trois choses qui sont importantes. La soupe, avoir des munitions et une pelle pour pouvoir s'enterrer et faire des retranchements. Les retranchements sont capitales. Alors, on se croirait revenir des siècles et des siècles en arrière. Hein. Rien n'a changé. Il faut que les manger, il faut avoir des munitions. Et puis, il faut creuser des retranchements pour se protéger. À l'époque, on assiégeait les villes pour les affamer. Maintenant, on fait des sanctions économiques. Mais c'est la même chose, c'est le même objectif. La guerre, c'est simplement un pays qui envahit son voisin. Et voilà, rien n'a changé vraiment, il n'y a pas de nouveauté dans la façon de faire la guerre. Dans un autre registre complètement différent, si vous êtes abonné à des revues, à la Maison de la Bible, la CLC, ils présentent régulièrement des nouveautés, tous les livres nouveaux qui sortent. Et moi, je me disais, mais j'ai jamais le temps, et ces livres ont l'air tellement intéressants, mais j'ai pas le temps de les lire. Et puis, un frère plus âgé m'a dit, oh, tu sais, les livres, finalement, ils répètent tous le même enseignement. L'enseignement n'a pas changé, c'est simplement la façon de le faire qui a évolué, mais il n'y a rien de vraiment nouveau dans tous les livres qui sortent tous les mois dans nos librairies chrétiennes. L'autre fois, je vous parlais des extraterrestres. C'est nouveau, les extraterrestres. Avant, on ne parlait pas d'extraterrestres, ça n'existait pas. Eh bien, si, ça existait sous une autre forme. Toutes les personnes qui sont dites avoir été en relation avec les extraterrestres, c'était des personnes, dans les temps passés, ils appelaient ça des fantômes, ou ils appelaient ça des djinns. Ils avaient un autre nom, mais c'était la même chose. Les activités démoniaques ne sont pas nouvelles. Il y a les nouveautés technologiques, on pourra dire. Maintenant, les téléphones se plient en deux. Le premier téléphone qu'avait eu Jackie, il se pliait aussi en deux, comme ça, il y avait un clavier, un écran, et vous pouvez pianoter au clavier en regardant l'écran. Voilà, il n'y a rien de vraiment nouveau, et toute notre technologie de communication et de nouveauté n'a pas changé foncièrement le problème de la communication. De la solitude, tout ça n'a pas arrangé finalement la situation de l'homme, il n'y a rien de vraiment nouveau. Le fait d'avoir des historiens et des livres d'histoire n'empêche pas à l'histoire de se répéter, c'est incompréhensible. L'histoire se répète, on a l'impression de ne jamais tirer les leçons du passé, alors que les historiens sont là, ils expliquent à long, à large et en travers ce qui s'est passé dans le passé, ce qui risque d'arriver si on refait pareil, mais rien n'y fait. Les hommes ont la mémoire courte. Ce qui est nouveau est rarement bon. Ce qui est bon est rarement nouveau, m'a-t-on dit un jour. J'étais bien déçu par cette parole de sagesse. Ce qui est nouveau est rarement bon, ce qui est bon est rarement nouveau. Ça encourage à la prudence dans tous les domaines. Et la suite, verset 12-18. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël. Ah, voilà, peut-être qu'il faut que je laisse. On va y faire son dessin. J'ai fait blabla, j'ai oublié de vous donner un dessin. Le roi Salomon, l'Ecclésiaste. Où est-ce que je lis ? J'ai mis le colorier. Tiens, le crayon sera de mamie là-bas.
C'est le même, exactement le même. Mais bon, il est bien pâle. Hein. Je vais mettre des couleurs. Verset 12. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher, à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité, poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit à mon cœur, voici, j'ai grandi, j'ai surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, à connaître la sottise et la folie. Et j'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Alors la science semble toujours être un échec pour l'Ecclésiaste. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. C'est une boutade qu'on dit pour se railler un petit peu ceux qui ont le métier de chercheur. Ils cherchent, mais ils trouvent rarement. L'Ecclésiaste, lui, avait trouvé plusieurs choses en faisant ses recherches, en cherchant et en se questionnant sur la sagesse. Au verset 15, ce qui est courbé ne peut se redresser et ce qui manque ne peut être compté. Cela paraît évident comme ça, mais en fait on vit dans l'espérance de pouvoir redresser ce qui est tordu dans la nature humaine, particulièrement. C'est l'histoire de toute l'humanité que de vouloir régler ses problèmes avec ou les problèmes des autres. Sans Dieu, sans faire appel à Dieu. Mais il constate, impossible, ce qui est courbé ne peut se redresser. L'homme est impuissant pour se changer lui-même, ni pour changer les autres. Ce qui manque ne peut être compté. Ça paraît évident et pourtant on a du mal à accepter nos limites. Et on a du mal à accepter celle des autres également. C'est un problème profond chez l'homme qui est une source de drame, de déchirure, de frustration dans une multitude de domaines. Ce refus d'accepter, de voir qu'il y a des choses qu'on n'y arrivera jamais. Et donc d'insister quand même, ou de vouloir que les autres fassent comme nous on y arrive, les autres doivent y arriver aussi de la même manière. Voilà, c'est quelque chose qui a tellement de place dans notre vie, dans notre société. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Ce qui manque ne peut être compté. Et l'Ecclésiaste a trouvé aussi la vanité de la recherche. Malgré toutes ses avancées scientifiques, malgré tout ce qu'il sa contribution à la sagesse, son bilan, c'est que ça n'a contribué surtout qu'à le faire souffrir, lui. Et je le comprends. Dans mon travail, par exemple, j'ai maintenant plus de 20 ans dans la même société, et puis on voit passer des modes, et on voit passer des managers et des managements. Et des fois, on trouve quelque chose qui marche, et ça marche bien. Et puis tout à coup, on va dire non, on va faire différemment. Et puis ce qui marchait, on va le casser pour le remplacer par autre chose qui va revenir en arrière et on va retomber dans les problèmes qu'on était tombés il y a 10 ou 15 ans en arrière, mais rien n'y fait. On a beau dire, ça ne va pas le faire. C'est pas pour ça que le sage est écouté. Hein. Cela crée beaucoup de gâchis, de douleurs, de déceptions, et ça peut conduire à l'amertume. Le progrès scientifique, en un sens, est toujours un échec. Alors la conclusion, c'est qu'on vit dans un monde qui est déchu, il est corrompu par le péché. Il ne faut jamais perdre ça de vue, et le livre de l'Ecclésiaste est là pour nous rappeler. On doit se débarrasser de l'idée que l'on va faire forcément mieux que la génération qui nous ont précédés. Eux, ils sont arrivés de telle façon, nous on va faire mieux, nous on va mieux y arriver. Voilà, c'est normal. On fait des progrès, on évolue, et ce qui est ancien, forcément, ce qui est nouveau, va le dépasser, le surpasser. Et on a beaucoup d'attrait donc pour la nouveauté, pour le progrès. Et pourtant, c'est un miroir aux alouettes, d'après notre ecclésiaste. Un piège, en quelque sorte, que l'attrait de la nouveauté. Non, il n'y a rien qui est vraiment nouveau. Accepter nos limites et les limites de ceux qui nous entourent, c'est assez humiliant que de le faire, mais cela est incontournable si l'on veut avancer. Et si nous investissons, ne le faisons pas dans ce qui est futile, passager et qui sera douloureux à la fin. L'Ecclésiaste dit que Dieu soumet les hommes à l'envie de faire des recherches pour leur montrer simplement qu'ils n'y arriveront pas, leur montrer leurs limites, leurs limitations, et les ramener à lui. Alors que faire? C'est là où il est important de se rappeler que l'Ecclésiaste est le fils de David. Et on peut faire comme David, aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain comme soi-même. Ça sera quelque chose de sûr, et une bonne façon d'organiser et d'orienter notre vie, que de la faire reposer sur nos capacités. Aimer Dieu de tout son cœur. Je vous propose donc, pour terminer, le chant « Ce qui m'était cher pour construire ma vie, utile et précieux selon ce monde, tout cela n'a plus de valeur depuis que je connais Jésus. » Oui, Seigneur, les pensées de l'Ecclésiaste sont à semble assez pessimiste. Fort heureusement, il ne dit pas que cela dans son livre. Mais à combien plus forte raison, au lieu de regarder à ce qui se fait sous le soleil, nous devons regarder à toi qui es au-dessus des cieux et qui donne la vie et toutes choses. Merci pour l'intérêt que tu portes à chacune de nos vies, et la façon dont tu veux te révéler, car c'est toi qui es vraiment ce dont nous avons besoin, et c'est dans les choses du ciel vraiment que nous devons investir. Merci parce que si rien ne change ici-bas, les difficultés que nous pouvons rencontrer de la condition humaine, nous savons que en Jésus-Christ, nous avons une belle espérance, l'espérance de son retour et du renouvellement de toutes choses. Le beau jour où toute la nature même sera renouvelée et nous nous serons renouvelés avec. Merci de garder les yeux fixés sur les choses importantes. Bénis notre Église et chacun présent. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.